Il est l'heure de Portraits de femmes de notre matrimoine de tous les continents, saison 2022-2023, par Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires 04. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, dérogeant à notre objectif initial, nous présentons une des rares femmes qui ne soit pas occultée par les historiens, mais au contraire, le personnage le plus célèbre de l'histoire de France. Alors, quel est ce personnage le plus célèbre de l'histoire de France? C'est une jeune fille et c'est Jeanne d'Arc. Alors, évidemment, nous ne présentons pas le mythe, pas l'icône que l'on en a fait dans le roman national, mais la jeune fille de 17 ans qui réalisa des faits historiques, mais extraordinaires, en moins de 2 ans, dont 12 mois de prison et de martyr. Pour rappel, je pense que tout le monde le sait, elle est née en 1412 à Domrémy, dans les Vosges, vers Toul, dans une famille paysanne. Elle grandit dans un environnement social pénétré des croyances surnaturelles, impressionnée qu'elle était, comme d'autres adolescentes de son temps, par les sermons et les prophéties des frères prêcheurs. Ce qui emporte l'adhésion de tous les esprits à cette époque, c'est l'extraordinaire, le surnaturel, une spiritualité intense irrigue les consciences de haut en bas de la hiérarchie sociale. Jeanne imagine entendre des voix qui lui assignent une mission libératrice pour la France et elle agit en conséquence. Pourquoi une mission libératrice? Eh bien parce que son action se situe dans le contexte politique de domination de la France par les Anglais. On est en plein dans ce qu'on appelle la guerre de Cent Ans, qui opposa la France et l'Angleterre à la fin du Moyen-Âge, de 1337 à 1453. La lutte d'influence entre les Armagnacs, partisans du roi, et les Bourguignons, partisans du duc de Bourgogne, lui-même rallié aux Anglais, plus la folie du roi Charles VI, favorise de nouveau le projet anglais de s'approprier la France. Le roi d'Angleterre est reconnu comme étant aussi le roi de France. Le dauphin, le futur Charles VII, est replié sur Chinon, résigné. Les Anglais assiègent Orléans le 12 octobre 1428. Orléans parce que c'est la dernière belle grosse ville du nord de la Loire, encore fidèle au dauphin. Protégée, entourée de tours, de ponts et de remparts défensifs contre les assauts des troupes anglaises. Comme si elle avait conscience de la gravité de la situation, Jeanne forme le projet concret de faire sacrer le dauphin roi de France et, pour cela, le mener à Reims, donc sécuriser le trajet, donc libérer Orléans. Conduite par le capitaine Robert de Baudricourt, elle va d'abord à Chinon pour obtenir l'adhésion du dauphin à son projet. Comme on ne la connaît pas, elle surprend, elle inquiète, elle est en habit d'homme. On lui impose un interrogatoire sur ses motivations et un examen de virginité comme preuve de sa sincérité pour s'assurer qu'elle est bien pucelle, comme elle le dit et se fait appeler et comme la nommaient tous ses contemporains. Jamais de son vivant on ne l'a appelée Jeanne d'Arc. Donc pucelle, c'est-à-dire vierge, et s'assurer aussi que sa foi est orthodoxe, c'est-à-dire conforme à la doctrine de l'Église, le contraire d'hérétique. Sortie victorieuse de ses examens, elle devient un objet de dévotion, personnifie l'espoir et le dauphin convaincu lui accorde une troupe avec laquelle, arrivée le 29 avril 1429 à Orléans, elle participe de manière décisive à la délivrance de la ville le 8 mai 1429. Galvanisant les combattants français, les Anglais se retirent. Cette victoire est un retentissement considérable en France et au-delà, en Europe. Elle persuade ensuite le dauphin d'aller se faire couronner roi à Reims sous le nom de Charles VII, ce qui fut fait avec éclat le 17 juillet 1429, en l'absence de la reine Marie d'Anjou, cependant. Ceci après plusieurs victoires remportées par Jeanne sur les armées anglo-bourguignonnes, dont celle de Pathé, P-A-T-A-Y, dans le Loiret, à 20 km au sud-ouest d'Orléans, le 18 juin 1429, la plus grande victoire de Jeanne. Christine de Pisan, la poétesse qu'on l'a vue dans la première série, est enthousiaste. L'an 1429 reprit à luire le soleil, dit-elle. Jeanne veut continuer sur Paris en appliquant sa tactique de rapidité d'exécution. Mais les tergiversations de Charles VII laissent le temps aux Anglais et leurs alliés de recevoir des renforts et de fomenter des trahisons qui vont aboutir à la capture de Jeanne devant Compiègne le 23 mai 1430. Ses ennemis, les Anglais, le duc de Bourgogne, l'université de Paris, l'évêque Cauchon, C-A-U-C-H-O-N, triomphent et tiennent leur revanche sur la défaite d'Orléans, cette humiliation profonde dont ils rêvent de se venger. Le duc de Bedford écrit au roi d'Angleterre que cette défaite d'Orléans était due, je cite, « à un disciple et limier du diable appelé La Pucelle qui a usé de faux enchantements et de sorcellerie ». Pendant 4 mois, Jeanne est enfermée dans la tour du donjon du château de Beaurevoir, prisonnière de Jean de Luxembourg qui la livre aux Anglais pour une rançon de 10 000 couronnes. Jeanne est ensuite emprisonnée au château de Bouvreuil, puis à la prison de Rouen. L'évêque Cauchon, rallié aux Anglais comme beaucoup d'autres prélats, entend lui faire un procès d'hérésie, donc un procès d'église. Et pourtant, Jeanne est traitée comme prisonnière de guerre. Les fers aux pieds, gardés par pas moins de 5 soldats anglais. Ce traitement est équivoque. Est-elle une prisonnière de guerre ou une hérétique suspectée comme telle par l'Église ? En fait, elle est une prisonnière politique, celle qu'on emprisonne parce qu'elle gêne le pouvoir établi, par l'idéal qu'elle poursuit et veut faire triompher. Pour les dirigeants, toute contestation, toute indocilité, tout apparent non-conformisme et commerce avec le diable. L'instruction commence. Les séances d'interrogatoire public durent 11 jours. Jeanne est seule devant 44 juges, sans avocat. Elle répond sans se troubler. Par exemple, à la question « Savez-vous si vous êtes en la grâce de Dieu ?» Elle répond « Si je n'y suis, Dieu m'y mette, et si j'y suis, Dieu m'y garde. » car je serais la plus dolente du monde si je savais n'être pas en la grâce de Dieu. Suivent des interrogatoires à huis clos sous la direction de l'évêque Pierre Cauchon. Elle dit « Je serais morte n'était la voix qui me réconforte chaque jour », faisant allusion à ses conditions de détention. Ou encore « Je sais bien que les Anglais vont me faire mourir parce qu'ils croient, après ma mort, gagner le royaume de France ». Après l'instruction, le procès ordinaire est à la recherche d'un chef d'accusation. On lui reproche la non-soumission à l'Église militante et le port de l'habit d'homme. Cet habit que Jeanne et ses compagnons d'armes ont toujours considéré comme tout naturel pour faire la guerre et que Jeanne continue à porter pour se protéger des attaques sexuelles de ses geôliers. Quand elle tombe malade, les Anglais la font soigner, car pour rien au monde, le roi d'Angleterre ne voulait qu'elle meure de mort naturelle. Il ne voulait pas être privé de la satisfaction de la voir mourir en étant brûlée vive. Au bout du procès, l'unanimité n'est pas faite sur le cas de Jeanne la Pucelle. Mais la volonté des occupants anglais est nette. Elle est politique, cette volonté. Jeanne devait être formellement condamnée, ce qui entraînerait pour Charles VII des honneurs et des aveux. Cauchon est sommé de poursuivre sa tâche. Le tribunal inquisitoire qu'il préside condamne Jeanne comme, j'ouvre les guillemets, hérétique, relapse, idolâtre, je ferme les guillemets. Relapse, c'est une chrétienne retombée dans l'hérésie. Le 30 mai 1431, elle est conduite en hâte au bûcher préparé sur la place du Vieux Marché à Rouen, attachée au pieu et le bûcher est enflammé. Ses cris de lamentation implorant Jésus dominent le crépitement des flammes et sont entendus de toute la foule gagnée par l'émotion. Beaucoup pleurent de pitié, même certains de ses ennemis. Des gens disent que c'est une martyre et qu'elle s'est sacrifiée pour son vrai prince. Ses cendres furent jetées à la Seine. Pour les Anglais, il ne s'agissait pas de laisser la foule en faire des reliques, de la transformer en héroïne, ce qui adviendra plus tard. Alors Jeanne est morte. Elle n'avait passé ses humbles 19 ans que de 5 à 6 mois et sa cendre charnelle fut dispersée au vent. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Eh bien, par la suite, il y a eu la réaction, disons tardive, de Charles VII. et la révision du procès. Charles VII entre enfin à Rouen, libéré en 1449, et la même année, il ordonne une enquête en révision de ce procès inique. Jeanne est finalement réhabilitée en 1456, soit 25 ans après sa mort. Le procès de 1431 est annulé et elle passe du statut d'hérétique à celui d'envoyée de Dieu. Charles VII posera les bases d'une France en voie d'unification après la signature du traité d'Arras. Et Louis XI concrétisera définitivement, par ses victoires successives sur les Anglais et sur Charles le Téméraire, dernier roi de Bourgogne, cette unification. Alors, une remarque en préconclusion. Quand on voyage dans l'histoire de la France par l'intermédiaire de personnages célèbres ou pas célèbres, on voit bien que notre pays a été pendant des siècles l'objet de convoitises des peuples du Nord, ses voisins, les Normands, les Anglo-Saxons en général, et les Germains, la dernière guerre de 39-45 l'illustre, et que les assaillants ont toujours trouvé dans notre peuple des complices, des collaborateurs, traîtres à leur pays, à sa langue et à sa culture. En conclusion, nous dirons qu'il est évident, bien sûr, que Jeanne a réussi sa mission en faisant couronner Charles VII, roi de France à Reims. Mais combien sa courte vie est extraordinaire, combien est spectaculaire, impressionnante sa courte carrière terminée par le martyre que lui ont infligé ses ennemis mortels. Bien que peu instruite, elle a fait preuve lors de son interrogatoire d'une intelligence stupéfiante qui, plus d'une fois, a déconcerté ses tourmenteurs et agacé les Anglais si impatients de la voir souffrir et mourir. On lui doit beaucoup, le sursaut qui a changé le cours de la guerre de Cent Ans, le cours de l'histoire, en donnant l'impulsion, en communiquant aux Français la force de chasser du sol de France les envahisseurs qu'ils battent à Formigny en 1450 notamment, sauf Calais, que les Anglais conserveront jusqu'en 1558 et qu'ils considèrent encore aujourd'hui comme leur frontière pour contenir l'afflux des immigrés. Même si aucune de nous n'aurait voulu connaître son sort affreux, pour nous, Jeanne la Pucelle est l'exemple inspirant de la résistance, de la rébellion contre une situation qui nous paraît insupportable, une femme ou plutôt une jeune fille exceptionnelle de notre matrimoine.
Merci Jacqueline. Est-ce que vous avez le temps de citer vos sources ?
Alors, les sources. Le grand dossier des sciences humaines, numéro 49, décembre 2017, janvier-février 2018. Jeanne d'Arc, de Régine Pernoud et Marie-Véronique Klein, librairie Artem Fayard, 1986-2010. Un ouvrage de référence sur Jeanne d'Arc. Il y en a 82, il y en a beaucoup. Les procès de Jeanne d'Arc, de Georges et André Duby, édition Gallimard-Juillard, 1973. Le dictionnaire Larousse, édition 2023. La civilisation de l'Occident médiéval, de Jacques Le Goff, collection Les grandes civilisations, édition Artaud, 1972.
Vous aviez envie de rajouter quelque chose ?
Je voulais dire qu'il y a de nombreux ouvrages sur Jeanne d'Arc. Il y a 780 biographies, 82 pièces de théâtre, des centaines de statues et il y a des films. J'aurais bien aimé citer trois films de Karl Dreyer, La passion de Jeanne d'Arc en 1928, Robert Bresson, Le procès de Jeanne d'Arc 1962, c'est mon préféré, et Jacques Rivette, Jeanne la Pucelle 1994. Voilà. Pour ceux qui et celles qui voudraient les regarder.
Au revoir.
Au revoir. À la prochaine fois.
Voilà. Au revoir.
Au revoir.